Bonjour Maître Xantine.
Bonjour.
Alors, vous êtes, nous l'avons dit, avocate de l'association La Voix de l'Enfant. Tout d'abord, première question qui me vient à l'esprit, c'est quoi La Voix de l'Enfant ?
Alors, La Voix de l'Enfant, c'est une fédération d'associations, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs associations qui se sont regroupées et qui sont chapeautées par La Voix de l'Enfant.
Ben, très bien. Et justement, puisqu'on parle de l'enfant, pour vous, l'enfant est-il bien au centre du monde ? Parce que c'est notre fil rouge.
Oui, bien sûr, l'enfant est au centre du monde. Sa protection, son éducation, lui garantir les conditions d'une vie meilleure sont évidemment au centre du monde.
Bien. L'association La Voix de l'Enfant, elle a quel rôle ?
Alors, ce sont donc plusieurs associations partout dans le monde, mais entre autres, le fil conducteur, puisqu'on est sur des fils conducteurs aujourd'hui, le fil conducteur de La Voix de l'Enfant, c'est protéger l'enfant, lui donner la possibilité de s'exprimer et le défendre lorsqu'il est en danger.
Dites-moi, combien d'enfants sont aidés à peu près par an ?
Alors, je suis malheureusement dans l'incapacité de répondre à cette question, mais il y a beaucoup d'enfants qui sont aidés, puisque, encore une fois, la Voix de l'Enfant étant une fédération d'associations, il y a des associations un petit peu partout dans le monde qui ont donc ce même objet social, la protection de l'enfant, et qui sont amenées à intervenir effectivement dans différentes situations.
Bah, quand est-ce que s'arrête le droit des mineurs ? Et l'excuse de la minorité doit-elle être étendue comme le veut Christiane Taubira ?
Alors, un mineur n'a pas de droit, comment dire ? Un mineur est en général représenté par ses parents, c'est-à-dire que ce sont ses parents qui font valoir ses droits. On se pose la question de la protection du mineur lorsque les parents ne sont pas en mesure, pour des raisons X ou Y, d'assurer la protection de leur enfant et de le représenter lorsqu'il s'agit de porter sa parole. Alors, l'excuse de minorité, c'est un autre problème. L'excuse de minorité, c'est l'enfant délinquant, l'enfant donc qui a commis une infraction pénale, qui est jugé et qui bénéficie d'une réduction du maximum de la peine encourue parce qu'il était mineur lorsqu'il a commis les faits. Donc cette excuse de minorité, effectivement, elle est extrêmement importante puisque la question que l'on se pose face à un mineur délinquant, c'est toujours la question de privilégier la sanction éducative par rapport à une sanction pénale.
Est-ce que, résultat, vous nous dites que cette excuse de minorité, elle n'intervient pas du tout dans le moment où on commence à juger l'affaire, c'est au moment du verdict
seulement. C'est au moment de la peine, effectivement. C'est au moment où on prononce une peine. On sait que la peine maximum encourue est réduite de moitié, sauf si l'on décide effectivement de ne pas faire bénéficier le mineur de l'excuse de minorité parce qu'il est multi-récidiviste, multi-délinquant.
Ah, ça peut être suspendu.
Ça pouvait être suspendu, notamment, ça a été envisagé du temps de M. Sarkozy.
Voilà. Donc, c'est plus possible aujourd'hui ?
De mémoire, non.
Bon, j'ai une question. Est-il judicieux d'avancer de plus en plus la possibilité de conduite qui, la conduite accompagnée est à 15 ans maintenant et elle veut être... permis de conduire veut se changer jusqu'à 17 ans.
Maintenant, c'est possible, justement. Ça a été reculé d'un an, les deux.
Ouais. Et aussi, peut-être, bien sûr, voter.
Alors, c'est deux choses différentes, à mon avis. La question de la conduite, c'est juste une question de maîtrise. Si la personne maîtrise la conduite automobile, il n'y a aucune raison, effectivement, de ne pas l'autoriser à passer son permis de conduire pour un problème d'âge. La question du vote est, à mon avis, une question différente, puisque c'est plutôt une question de maturité et de conscience politique.
Alors, à votre avis, La garde alternée, on change de sujet, on passe sur du droit de la famille. La garde alternée, est-ce que ça doit devenir la règle ?
C'est la règle. C'est la règle.
Ça doit forcément.
Le juge aux affaires familiales doit toujours privilégier ce mode de résidence. On ne parle pas de garde, on parle de résidence alternée, puisque l'autorité parentale est détenue conjointement par les parents, même si les parents sont divorcés. Donc, le juge doit, a priori, privilégier cette solution, puisqu'elle permet aux parents de voir à temps égal leurs enfants. Mais pour qu'elle soit possible, il faut d'une part que les gens soient proches géographiquement et d'autre part qu'ils s'entendent suffisamment bien pour être respectueux des droits des uns et des autres et respectueux de l'intérêt de leur enfant.
Alors, une dernière question, a priori. Cette fois-ci, on va parler d'outreau. Alors déjà, est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu les faits ? Qu'est-ce qui s'est passé à Outreau ?
Alors ce sont des faits de viol et d'agression sexuelle qui ont été commis sur des enfants. Et la manière dont la parole de ces enfants a été recueillie a été particulièrement... cette parole de l'enfant n'a pas été recueillie en toute neutralité. Et le fait que cette parole n'ait pas été recueillie en toute neutralité a entaché l'ensemble du procès, puisque finalement, des personnes ont été accusées à tort, puisqu'elles ont été par la suite acquittées. Donc Outreau a eu effectivement des conséquences sur la façon dont on recueille la parole de l'enfant aujourd'hui. Donc on essaye de la recueillir en étant le moins interventionniste possible, en essayant de faire en sorte de ne pas diriger la réponse, de ne pas susciter une réponse dans un sens, parce qu'on sait que la parole de l'enfant, elle est extrêmement fragile. Donc il y a, il y a maintenant un réel effort pour recueillir la parole de l'enfant dans la plus grande neutralité, et ça c'est une bonne chose. La mauvaise chose, c'est que cette parole est devenue plus douteuse, et que certains enfants ne voient pas leurs droits reconnus.
Est-ce que à l'époque d'Outreau, il y avait déjà des enquêteurs, des policiers qui devaient être un petit peu spécialisés pour, pour interroger les enfants?
Ça existait déjà, oui.
Mais, pardon. Avec Outreau, donc, est-ce que on peut dire que la parole de l'enfant a été remise en question à cause d'Outreau ?
Il y a eu une période où, à partir du moment où un enfant portait une accusation, on considérait qu'il disait la vérité et on donnait suite à cette accusation.
C'était quoi qu'il arrive ?
Pardon.
C'était comme ça. C'était forcément, s'il le disait, c'est que c'était vrai.
Il y avait un préjugé de vérité. Voilà.
D'accord.
Aujourd'hui, ce préjugé n'est plus celui-là. Voilà. Le préjugé, c'est la parole est fragile. Et si cette parole est fragile, il faut au moins 1, 2, 3, voire un maximum d'éléments pour venir l'étayer.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Maître Xantine.